Privé, Père Philippe, Saint-Jourdain, 30 octobre 1984.
Le Père Abbé de Lérins m'a dit de vous dire qu'il ferait tout ce qu'il pourrait et qu'il vous m'avait prié pour ça, qu'il viendrait après la Toussaint. Il est pris d'une sciatique qui le fait beaucoup souffrir, mais il compte beaucoup venir. Il m'a dit, je désire beaucoup venir, beaucoup, beaucoup venir. Alors, je vous demande de prier pour lui, pour ça, pour qu'il puisse venir. Je crois que ce serait très bien. Alors, il m'a dit, je crois que je viendrai seul, du reste. C'est peut-être mieux. Alors, j'ai dit, oui, c'est beaucoup mieux que vous veniez seul. Alors, beaucoup mieux, ce serait très bien aussi qu'il vienne accompagner, mais c'est plus, on est plus avec lui d'une certaine manière, on est plus proche de lui. Mais dire, ah bien, un frère infirmier qui me fera des piqûres, il n'y a pas de danger, il me fera de très bonnes piqûres. Alors, je suis passé à Cotignac, donc hier au soir, hier après-midi. Les frères réclament votre prière et puis j'ai promis que vous priez pour eux. Les curés vont bien, vous en avez vu un. Alors les curés vont bien parce qu'ils sont quand même trois et quand ils sont trois curés, ils peuvent se disputer avec le clocher le plus haut, vous savez, ça fait les querelles de clocher, mais ils vont bien. Alors nous allons continuer de réfléchir un peu sur ce que doit être dans notre vie les sacrements de l'Église. Je vous avais rappelé la dernière fois la place de la parole de Dieu et comment tout était enveloppé par l'accomplissement de la volonté du Père. Et comment ces trois nourritures, la parole, l'Eucharistie et la volonté du Père, sont les trois nourritures voulues par Dieu par Jésus, comme législateur, il ne faut pas l'oublier, comme législateur donc, comme grand prêtre, roi, les trois nourritures qu'il nous donne pour que nous devenions des brebis grasses, pour que notre foi, notre espérance et notre charité puissent croître de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de faire un examen de conscience pour savoir si nous vivons suffisamment de la parole de Dieu, si nous vivons suffisamment de l'Eucharistie et des sacrements et de la volonté du Père. Si nous sommes bien dans la volonté du Père, constamment. Puisque tout ce qui est fait en dehors de la volonté du Père, c'est de la paille ou du plomb, nous dit saint Thomas, et que tout cela fond, seul ce qui est fait par amour et dans l'obéissance est éternel. Ça va très loin, ça. Je crois que c'est très important de bien le comprendre, parce que c'est peut-être ça qui nous fait le mieux comprendre la petitesse évangélique. Parce que, au point de vue philosophique, c'est bien évident qu'on ne pourrait pas dire ça. Au point de vue philosophique, c'est l'autonomie prudentielle qu'on doit acquérir de plus en plus. L'obéissance est bon pour les enfants. Les Grecs disaient aussi pour les femmes, mais aujourd'hui on ne le dit plus. Alors il faut dire uniquement pour les enfants. C'est bon pour les enfants. Mais une fois qu'on grandit et qu'on acquiert la vertu de prudence, pratiquement on n'a plus qu'à obéir à l'État, très peu. Alors, il ne faut pas être des citoyens conscients, vous voyez, si on est novice du Saint-Esprit. Il ne faut pas devenir des citoyens inconscients, mais il faut dépasser l'aspect du citoyen et devenir enfant de Dieu. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint qui sont fils de Dieu, qui sont enfants de Dieu. C'est tellement important, ça, dans notre vie, de comprendre ça et de vivre de cela, et de vivre pleinement et totalement de cette unité si profonde, si divine qu'il doit y avoir entre notre cœur et le cœur du Père. Jésus a institué les sacrements pour l'Eucharistie. Tout ce qui finalise tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Et ceci, c'est très important de le comprendre. C'est parce que Jésus voulait qu'il soit présent au milieu de nous. Et Jésus voulait que cette présence soit un don actuel, comme une nourriture quotidienne. C'est ça l'intention profonde de la sagesse de Dieu par rapport au sacrement. Si on veut saisir la raison profonde de ce que représente ce mystère, c'est un grand mystère, un mystère de surabondance. Les sacrements ne sont pas une surloi. Les sacrements sont vraiment un mystère de surabondance. C'est pour que nous puissions avoir en plénitude et en surabondance le corps du Christ, le sang de Jésus, c'est-à-dire son amour. Pour que nous puissions en vivre de plus en plus. Alors, comme l'institution de l'Eucharistie engager l'homme le plus possible dans l'intimité avec Jésus. Jésus a voulu qu'il n'y ait pas seulement le sacrement de l'Eucharistie, parce qu'il aurait pu, en sagesse divine, il aurait pu tout simplement nous donner l'Eucharistie comme il a donné la manne. Alors à ce moment-là, l'Eucharistie aurait été le seul sacrement. Il aurait pu donner un rendez-vous par un prophète, et que ce rendez-vous soit donné, qu'on se tienne à l'église à telle heure, qu'on prie, et qu'il nous donne cette nouvelle manne qui est son corps et son sang. C'est certain qu'ils le conçoivent comme ça, puisque Jésus est présent dans la mesure où ceux qui sont là ont la foi en sa présence. Donc c'est bien la projection de l'Ancien Testament qui se prolonge dans la Nouvelle Alliance. Jésus a voulu quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre que nous devons comprendre, le don de son corps, le don de son sang, le don du mystère de la croix, de son sacrifice d'amour. Il a voulu que ça se fasse par les hommes, par lui, avec lui et en lui. C'est comme ça que nous devons traduire « in persona Christi ». C'est par lui, avec lui et en lui. Il a voulu que, de fait, il y ait des hommes qui donnent ce don qui les dépasse complètement. Des hommes qui donnent plus que tout ce qu'ils sont. Qui donnent le corps même du Christ, le Christ lui-même. C'est ça qui rend le prêtre pauvre. Il n'y a rien qui appauvrit plus que de comprendre qu'on donne quelque chose qui nous dépasse complètement. Qu'on donne une réalité qui est plus que nous. Mais quand on se donne soi-même, il y a une certaine exaltation de se donner. C'est vrai. On est heureux de pouvoir se donner et qu'un autre nous reçoive comme un don qu'il fait vivre. Tandis que quand on donne une réalité, une personne qui nous dépasse complètement, on ne peut le faire en toute vérité que dans une très grande pauvreté, que dans une très grande humilité. On s'efface devant le don. Et si on ne s'effaçait pas devant le don, ce serait malsonnant. Le prêtre est celui qui reçoit en premier lieu le don. Il le donne, mais il le donne en pauvre, il est le premier à le recevoir. Il est le premier à vivre du sacrifice de la messe et de l'Eucharistie. Il doit toujours se rappeler que c'est pour lui, en premier lieu. Le prêtre doit communier. L'Église le demande. Il n'a pas le droit de dire la messe sans communier. Il n'a pas le droit de dire la messe sans communier le premier. Et c'est significatif, ça. Ça montre que l'Eucharistie est en premier lieu pour lui. Ce n'est pas nécessairement lui qui en vivra le plus, parce qu'il peut y avoir ceux qui participent à l'Eucharistie qui ont une intensité d'amour, d'espérance et de foi plus grande, et donc qui reçoivent encore plus profondément le don, qui reçoivent encore plus profondément le Christ. Mais Jésus veut que le prêtre soit le premier à recevoir ce don. Donc Jésus a voulu lier l'Eucharistie et le sacerdoce. Et ça, c'est une volonté expresse du Christ. Ce n'est pas un ordre de nécessité. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas un ordre de nécessité. Parce qu'il aurait pu se donner autrement. Il a voulu que l'homme, choisi par lui, coopère de la manière la plus intime au mystère de l'Eucharistie. Il y a ce mystère du don. Vous voyez, alors, on comprend bien la parole du Saint-Père, hein, que je vous ai déjà citée plus d'une fois, quand le Saint-Père, au Parc des Princes, dit « Je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, mais ce qu'il y a de plus grand, c'est que je suis prêtre. » Parce que c'est là où on saisit le sacrement lié à l'Eucharistie, dans toute sa force. Jésus a voulu que le prêtre soit non seulement son représentant qui donne son corps, son sang, son cœur, mais que le prêtre soit aussi celui qui donne le pardon. C'est relié directement à son mystère sacerdotal, qui donne le pardon au nom du Christ, pas en son propre nom. Ça le dépasse là encore complètement. Quand le prêtre donne l'absolution, il est complètement dépassé par cette miséricorde unique de l'amour qui pardonne. C'est la miséricorde du Christ. Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est le geste de Jésus qui lave les pieds à ses disciples. Jésus a voulu qu'il y ait le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation. Vous voyez, c'est important de saisir, si on veut entrer un tout petit peu dans cette sagesse des sacrements, que pour chacun des sacrements, il y a un acte d'amour particulier du Christ. Ils ne sont pas liés par un ordre de nécessité. C'est un ordre de sagesse d'amour. Et donc, pour chacun, il y a eu une volonté expresse du Christ. Quand nous savons, quand l'Église nous enseigne qu'il y a 7 sacrements, nous pouvons saisir l'ordre qu'il y a dans les 7 sacrements. Nous pouvons saisir la sagesse de Dieu qui est donnée à travers cet ordre. Mais ça, c'est après coup. On n'aurait pas pu l'inventer. C'est après coup que le théologien, lui, dit « Ah, c'est merveilleux, ça regarde toutes les étapes de la vie humaine. Toutes les étapes de la vie humaine sont enveloppées par les sacrements. » Pour nous faire comprendre combien la sollicitude du Père est profonde, combien elle est grande, puisqu'elle veut que toutes les étapes de notre vie soient enveloppées par un amour de surabondance. Et chaque sacrement, puisqu'il relève d'un acte particulier de la miséricorde du Christ, chaque sacrement est donc un geste d'amour de surabondance. ce n'était pas nécessaire. Même au point de vue des vertus théologales, ce n'était pas nécessaire. Dieu aurait pu très bien ne pas nous donner les sacrements et simplement nous donner la grâce et les vertus théologales et nous donner sa parole. Il a voulu plus. Il a voulu ce plus qui est cet ordre des sacrements, qui est quelque chose de très particulier. C'est les gestes qui continuent. Et c'est vrai, les sacrements sont avant tout des gestes de miséricorde. Les sacrements nous enseignent moins que la parole de Dieu. Les sacrements font appel avant tout à notre petitesse évangélique. C'est peut-être ce qu'il faudrait voir, cela. C'est que la petitesse évangélique, justement, est en connaturalité avec les sacrements. Beaucoup plus qu'avec la parole. La parole, ça nous fait comprendre, ça nous fait appel quand même un peu à un effort d'intelligence. Tandis que pas du tout les gestes des sacrements. Et ça, c'est vrai. Regardez les débiles mentaux. Comme ils sont sensibles au sacrement et comme ils ont de la peine, même ils ne comprennent rien du tout à la parole de Dieu. Tandis que les sacrements, ils comprennent, sont des gestes de tendresse et d'amour. Alors il faut que nous comprenions ces gestes et plus nous entrons dans l'intelligence de la parole de Dieu, plus il faut cette compensation divine des sacrements. Plus il faut, dans une pédagogie divine et harmonieuse, il faut que nous entrions encore beaucoup plus dans cette exigence des sacrements, ces gestes de Dieu pour nous, et que nous allions jusqu'au bout. Dieu a voulu qu'il y ait le baptême, qu'il y ait le sacrement de confirmation. Dieu a voulu qu'il y ait le sacrement de mariage. Il n'y a pas de sacrement pour la consécration religieuse. C'est vrai. Il n'y a pas de sacrement pour la consécration religieuse. Alors il ne faut pas dire que tout le monde doit se marier avant d'entrer en vie religieuse pour avoir tous les sacrements, n'est-ce pas ? Et pour avoir ensuite le sacrement d'ordre, si on veut, si on a la gourmandise des sacrements, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, on doit regarder que de fait, le sacrement de mariage, nous ne l'avons pas, ceux qui se consacrent à Dieu. Alors comment comprendre ça ? C'est que les sacrements sont ordonnés à la grâce habituelle, à la croissance de la grâce habituelle. Ils sont ordonnés à la croissance de la foi, de l'espérance et de l'amour. La consécration religieuse, elle, est liée immédiatement à la croissance de l'amour. Puisque c'est vouloir se donner totalement, radicalement, toutes les virtualités possibles sont données d'avance. Et donc c'est un geste qui n'a pas besoin de sacrement, puisqu'il est relié directement à la charité, et que c'est notre don. Oui, c'est la réponse à l'Eucharistie. Alors, tout chrétien doit vivre en esprit des dons de conseil. Et Dieu demande à certains, c'est le propre des religieux, de le vivre d'une manière visible pour rappeler aux fidèles, à tous les fidèles, qu'ils doivent vivre des conseils évangéliques. Toute maison religieuse doit donner ce témoignage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation entre laïc et religieux. Il y a une séparation, il y a un sens qu'il y a une clôture, c'est sûr, mais il n'y a pas de séparation, c'est la même sainteté, c'est la même sainteté vers laquelle on tend. Et la vie religieuse doit rappeler à ceux qui ne sont pas appelés à la vie religieuse ce témoignage que tout chrétien doit vivre en esprit les béatitudes évangéliques. Tout chrétien doit vivre en esprit les conseils évangéliques. On n'a pas le droit de dire « Ah, ça ne me regarde pas, je ne suis pas religieux ». Du fait même qu'on a reçu le baptême, on est consacré. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la vie religieuse est reliée au baptême, en ce sens qu'elle nous fait vivre totalement notre baptême. Ce n'est pas le retour au baptême, hein, ça ce serait faux. C'est de vivre totalement notre baptême, c'est-à-dire de vivre totalement cette consécration dans laquelle on se trouve par le point de vue du baptême. Donc, saisissons bien cela, que nous sommes en présence d'une surabondance d'amour qui enveloppe toute la vie humaine jusque dans cette dernière étape, le sacrement des malades. Quand le corps connaît une infirmité plus grande, quand le corps connaît une lassitude plus grande, il y a ce sacrement. Il faudrait ce sacrement-là pour les novices fatigués, vous voyez. Quand le corps connaît une lassitude plus grande, hein, ça ne va pas encore jusque-là, il faudrait peut-être essayer hein, de voir que de fait, dès qu'on connaît une lassitude plus grande, dès qu'on connaît une fatigue plus grande, puisqu'au fond c'est ça, c'est donné pour fortifier notre corps dans les dernières luttes, pour permettre à l'âme d'être victorieuse de ces lassitudes du corps et de pouvoir être plus apte à répondre à l'amour. Alors si vous voulez, nous allons prendre chacun des sacrements à la suite pour nous aider à mieux en vivre et le montrer dans sa relation, si vous voulez, avec notre vie religieuse, avec notre vie chrétienne tout court. Jésus a voulu instituer l'Eucharistie comme un testament. C'est le dernier acte de sa vie communautaire. C'est le dernier acte de liberté de sa vie communautaire, de sa vie de grand prêtre, liturgiste d'une nouvelle liturgie, fondateur d'une nouvelle liturgie, reprenant toute la liturgie de l'Ancien Testament et lui donnant une nouvelle signification. Et c'est pour ça qu'il a voulu que la scène soit précédée de la Pâque. C'est quand même très significatif, ça. Il aurait pu très bien dire « Maintenant c'est terminé, cette année-ci c'est pas la peine la Pâque, parce que nous allons entrer dans autre chose. » Et non, il a voulu célébrer la Pâque, une dernière fois. La dernière Pâque a dû se terminer dans le cœur de Jésus. Et à ce moment-là, être tout ordonné à une Pâque nouvelle qui est l'Eucharistie. Donc, continuité et en même temps dépassement. C'est bien ce que notre Seigneur nous dit. Hein. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis l'achevé. Eh bien, l'Eucharistie n'abolit pas tous les signes. Comprenez bien, quand je dis n'abolit pas, ça ne veut pas dire qu'ils demeurent en acte. Dans leur intention, ils demeurent parce qu'ils sont achevés dans quelque chose de plus grand. On ne doit pas les vivre matériellement. Vous voyez, c'est là encore la différence avec la parole. Toutes les paroles de l'Ancien Testament, nous continuons de les proclamer. Et l'Église continue de les proclamer. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la liturgie de l'Ancien Testament, la liturgie de l'Ancien Testament, l'Église ne continue pas de la proclamer, même le sabbat. très mystérieux, ça. Et je crois que c'est justement parce que ce sont ces gestes d'amour qui doivent être repris radicalement par le mystère de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est la clé de tous les sacrements, de toute la liturgie, et elle renouvelle tout. Et c'est sans doute pour cela, vous voyez, qu'il y a eu cette première Pâque que Jésus a réalisée, et qu'entre l'ancienne Pâque et la nouvelle Pâque, il y a eu le lavement des pieds. Et le lavement des pieds a montré la rupture radicale avec une reprise toute nouvelle. C'est ce que saint Thomas note lorsqu'il parle justement des sacrements de l'Ancien Testament et de la liturgie de l'Ancien Testament. Il nous montre que les commandements de Dieu, la parole de Dieu demeure, mais lorsqu'il s'agit de la liturgie de l'Ancien Testament, elle est toute renouvelée par l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui renouvelle tout. Et je crois bien qu'on peut dire que du fait que Jésus a voulu réaliser la première Pâque avant, et entre deux, le lavement des pieds, c'est pour que nous comprenions mieux comment l'intention profonde de la Pâque ancienne est actuée d'une manière toute nouvelle dans le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie contient éminemment l'agneau pascal. Pas selon sa forme visible, mais selon l'intention profonde de Moïse instituant la Pâque, demandant que l'agneau pascal soit immolé. Parce que justement, le mystère de l'Eucharistie nous fait comprendre que la croix est renouvelé pour nous chaque fois que l'Eucharistie est célébrée. Et donc, le mystère de la croix nous est donné dans ce qu'il a d'essentiel, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus au Père, dans ce qu'il a d'éternel. La croix a quelque chose de visible, de temporel, d'historique. La croix, sous l'aspect violence, sous l'aspect visible, est inscrite dans le temps. Mais la croix, dans ce qu'elle a d'invisible, l'acte par lequel Jésus offre son âme, sa vie au Père pour le glorifier et nous sauver, cet acte-là est éternel. Il est entièrement transformé par l'amour et il exprime l'amour du cœur de Jésus. Il exprime que l'amour est plus fort que la mort. Il exprime que l'amour qu'il a pour le Père dépasse absolument le bien de sa vie temporelle, si grande que soit sa vie temporelle. Et cet acte intérieur que Jésus réalise au plus intime de son cœur, cet acte est éternel, c'est-à-dire qu'il est toujours actuel. Et il nous est donné à travers l'Eucharistie, par l'Eucharistie, pour que nous comprenions qu'il est toujours éternel. C'est là où l'Eucharistie nous enseigne, c'est là où l'Eucharistie nous apprend quelque chose de nouveau. On pourrait le dire, mais par l'Eucharistie, nous le disons d'une manière beaucoup plus forte et d'une manière beaucoup plus directe. c'est l'offrande que Jésus réalise à la croix, cette offrande de tout lui-même, cette offrande qui se fait dans une adoration et dans un holocauste, où tout est offert. Cette offrande, elle est toujours actuelle. Et l'Eucharistie va nous donner cette offrande d'une manière visible, symbolique, et en même temps, d'une manière efficace. Selon un symbole qui exprime quelque chose et qui cache le reste. La double consécration exprime l'offrande de toute sa vie, la séparation de l'âme et du corps, la séparation du sang. La séparation du sang et du corps. Jésus s'offre lui-même et tout ce qu'il est, sans rien garder pour lui. Il nous a tout donné. Il a tout offert au Père. Et donc, pour glorifier le Père et nous sauver, dans le même acte. Et le mystère de l'Eucharistie nous donne ce sacrifice d'amour. Et voyez, là nous comprenons bien que le sacrifice de la croix est un sacrifice d'amour. Si le sacrifice de la croix avait été un sacrifice de justice, de réparation, il n'y aurait pas pu y avoir le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie nous montre que le mystère de la croix est un mystère d'amour. Et c'est pour ça qu'il peut surabonder à travers les temps et les lieux. C'est pour ça qu'il peut être toujours présent. Parce que c'est un sacrement d'amour, parce que c'est un geste d'amour, parce que c'est un sacrifice d'amour. Il est donc au-delà de toutes les circonstances de temps et de lieu. Et il est un mystère d'amour pour nous et pour la gloire du Père. Et c'est pour ça qu'il peut être rendu présent. Comprenons bien, il est rendu présent par une volonté du Christ. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à chaque messe, il y a vraiment un sacrifice d'amour. Ce n'est pas simplement nous rappeler que le sacrifice de la croix est éternel. Ce n'est pas simplement rendre présent d'une façon visible ce sacrifice, mais c'est de nous le donner pour que le sacrifice de la croix soit actuel pour nous, soit présent pour nous. Le sacrifice que Jésus a réalisé sur la croix nous est donné à travers le mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça que, pour bien vivre du mystère de la messe, il faut le vivre tout proche de Marie, en vivant le mystère de la compassion. C'est Marie qui peut seule nous faire vivre le mystère de la messe, puisque c'est le sacrifice de la croix. Et qu'elle est la créature qui l'a le mieux vécu. Et elle l'a vécu en s'offrant. Elle ne pouvait pas vivre le sacrifice de la messe uniquement en spectateur ou en spectatrice. Elle ne pouvait vivre le mystère de la messe qu'en témoin, c'est-à-dire en participant, en faisant que le sacrifice du Christ s'étende dans son cœur et prennent possession de son cœur, et qu'elle-même vive ce même sacrifice, cette même offrande, cette même adoration dans sa foi, son espérance et son amour. Et Marie nous apprend à vivre le mystère de la messe avec elle, c'est-à-dire en vivant le mystère de la croix du Christ, en adorant avec Jésus et en offrant toute notre vie, sans rien garder. Et ceci dans la foi, l'espérance et l'amour, en vivant comme Marie dans son mystère de compassion, le sponsabo in fide, le sponsabo in misericordia, le sponsabo in justitia. Puisque de fait, dans son mystère de compassion, Marie vit ses épousailles. L'alliance de l'époux et de l'épouse se réalise à la croix, et comme l'Eucharistie nous donne la croix, nous devons vivre le mystère de l'Eucharistie en vivant ses épousailles divines. Donc en vivant le sponsabo in fide, in misericordia, in justitia. Et ça comprend que si nous ne vivons pas du sacrifice de la messe de cette manière, il reste un peu extérieur à nous. Il est toujours un peu extérieur à nous, mais il faut qu'il le soit le moins possible. Il faut que tout nous-mêmes, dans notre vie de foi, d'espérance et d'amour, nous soyons attirés, saisis par ce mystère d'amour qui nous est donné. Et qui nous est donné d'une façon toute spéciale, puisque la messe est pour nous. Et quand il s'agit d'une messe, justement, de communauté, on peut dire que le mystère de la croix est encore plus présent. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier dans la messe communautaire. On peut aimer mieux, au point de vue de la dévotion, une messe privée, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un appel plus immédiat au mystère de la croix dans la messe communautaire. Et nous devons vivre cette messe en union avec Marie au pied de la croix. Vous voyez, à la croix, il y a une communauté, hein, faut pas l'oublier. Il y a Jean et Marie, il y a Jésus, il y a les saintes femmes. Il y a une communauté, et Jésus a voulu réaliser son dernier mystère de la croix dans cette communauté vivante et aimante. Ça n'exclut absolument pas la messe solitaire. N'est-ce pas ? Il faut bien le comprendre. Parce que je crois que ça, c'est très important. On pourra voir cela du reste. Parce que l'autre jour, en passant à Bethléem, les frères de Bethléem ont récolté, c'est très bien fait, ont récolté tous les passages essentiels du Concile et des différents papes récents sur la messe dite en solitude. C'est très beau. Et j'ai réclamé un petit fascicule parce que je crois que ça peut être pour nous quelque chose de très bon et de très beau de voir la messe dite en solitude. Mais Paul VI, le Concile, Paul VI et Jean-Paul II le redisent avec une très grande force, pour ne pas parler de saint Thomas, hein, mais avec une très grande force. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de messe privée. On peut dire une messe dite dans la solitude, oui, c'est une messe dite dans la solitude, ou une messe dite dans une communauté. Mais il n'y a pas de messe privée. La messe, c'est toujours le sacrifice du Christ qui est donné à l'univers entier pour la gloire du Père et pour le salut de tous les hommes. Mais il y a un exercice de charité fraternelle dans la messe communautaire. Il y a un exercice de charité fraternelle qui demande d'être offert au Père. Et je crois qu'on doit être sensible à cela. C'est du reste au moment de la messe où la communauté se constitue de la manière la plus forte. C'est à ce moment-là où on vit l'unité voulue par le Christ. On la vit dans la mesure même où justement on comprend qu'il faut vivre ce que Marie a vécu au pied de la croix. Et c'est pour ça que c'est bon de vivre l'Eucharistie d'une façon communautaire pour lier des liens divins dans la communauté. C'est donc en vivant avec Marie le mystère de la compassion que nous pouvons vivre vraiment le mystère de l'Eucharistie, le sacrifice. Et explicitement, vous comprenez bien, Marie est présente à la croix. Et nous devons donc demander à l'Esprit Saint de nous aider à vivre le mystère de la messe tout proche de Marie. Que notre cœur soit lié au sien dans la foi, l'espérance et l'amour, et que nous essayons de vivre alors vraiment à ce moment cette alliance d'épouse et d'époux, le sponsabo in fide. Marie a vécu tout le mystère de la compassion dans sa foi. Et il faut que nous vivions dans notre foi tout le mystère de la croix, tout le mystère de l'Eucharistie. Et c'est très important, ça. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ceci est particulièrement vrai quand il s'agit de la foi. Il faut donc vivre avec une très grande souplesse, mais en même temps, une très grande profondeur, le mystère de l'Eucharistie, la profondeur de Marie au pied de la croix. Donner notre intelligence à Jésus et au Père. Lui donner notre intelligence. Tant qu'on n'a pas donné totalement notre intelligence à Jésus et au Père, nous ne pouvons pas entrer dans le mystère de la compassion. Et nous n'entrons pas. Et alors, il y a quelque chose qui ne se fait pas avec Marie. Il faut que nous comprenions ce don total de l'intelligence. Et chaque jour, vous voyez, puisque c'est chaque jour que ça doit se répéter, et chaque jour, ce don se fera avec une petite modalité différente. Parce qu'il y aura peut-être eu telle ou telle difficulté par rapport à l'enseignement de l'Église, par rapport à tel ou tel ordre reçu des supérieurs. Et c'est très vrai, il faut s'habituer à ça. Parce qu'alors chaque jour, le mystère de la messe pour le prêtre ou pour celui qui assiste, c'est une reprise radicale de tout. Ce que doit être la croix, c'est une reprise radicale de tout. Ce n'est pas une répétition. Comme je disais l'autre jour, on me disait la réflexion comme ça d'un prêtre qui est arrivé le dimanche. Alors on lui dit, c'était pas ici, c'était à Curière. Alors on lui dit, si vous voulez, la messe est il y aura la grand-messe justement dans une heure. Si vous voulez y participer, vous voulez. Oh, j'ai dit ma messière. Pas la messe du samedi soir, mais la messe. Je ne suis pas obligé de le dire tous les jours. Bon, on voit très bien cette espèce d'attitude qu'il peut y avoir. Et c'est terrible parce que c'est oublier ce que c'est que le sacrifice de la messe. C'est oublier ce que c'est que le sacrifice de la croix. C'est une reprise radicale de tout, c'est pas une répétition. Une répétition, mais oui, alors j'ai dit hier, j'ai fait une répétition hier, oui, pas la peine d'en faire aujourd'hui. Il y a eu une répétition de chant hier, ça c'est suffisant. Et quand il s'agit de vivre un mystère, on le vit radicalement. Et la croix est un mystère qu'on vit radicalement. Et c'est pour ça que ça exige de nous l'offrande de notre intelligence. C'est bon, ça. On offre son intelligence qu'à Jésus, hein. On offre son intelligence qu'à Dieu. Mais on doit l'offrir à Jésus. Si on veut entrer dans le mystère de la compassion, si on veut vivre le mystère de la croix, ça fait partie de la sagesse de Dieu. Marie est là pour compléter l'holocauste de la croix. Et Marie complète l'holocauste de la croix dans sa foi. Puisque Jésus, lui, est au-delà des sommets de son intelligence, on a la vision béatifique. Et donc Jésus ne vit pas la croix dans la foi. Mais il faut que l'épouse, et c'est le rôle propre de l'épouse, vive le mystère de la croix dans sa foi. Dans une foi plénière à l'amour qui se donne, à l'amour qui se sacrifie, à l'amour qui se réalise dans un holocauste. Et à ce moment-là, notre foi réclame le don même de notre intelligence. Nous acceptons de ne plus rien comprendre. Et c'est difficile, hein, pour un philosophe et un théologien de ne plus rien comprendre. Folie et scandale. La vie religieuse peut apparaître folie et scandale. Elle est folie et scandale. Pour notre sensibilité humaine, pour notre cœur humain. Elle est sagesse du crucifié. Et c'est pour ça que le sacrifice de la messe réclame de nous cette offrande totale de notre intelligence, de notre cœur, de tous nous-mêmes. Il faut que tout soit offert dans l'amour. L'épouse offre à l'époux ce que l'époux ne peut pas réaliser par lui-même. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une complémentarité, c'est en ce sens-là qu'il y a un achèvement. L'épouse offre à l'époux quelque chose que lui ne peut pas réaliser. C'est merveilleux de voir que Jésus ait eu cette infinie délicatesse d'amour. Et comprenez un peu, comme l'œuvre de la création n'est pas achevée pour que l'homme puisse l'achever par son art, la recréation, qui est le mystère de la croix, n'est pas achevée pour que l'épouse, Marie, l'Église, chacun d'entre nous, nous puissions achever ce qui manque à la passion du Christ. Vous savez bien comment il faut bien saisir cela. Il ne manque rien dans l'ordre de l'amour et de l'intensité de l'amour. Mais il manque quelque chose dans l'ordre de l'extension. Jésus a soif que nous soyons ceux qui coopèrent à la suite de Marie, qui coopèrent à son mystère de la croix. Si nous vivons du mystère de la messe de cette manière, alors chaque jour, la messe nous donne un renouveau radical pour nous élancer vers le Père, pour tout lui donner. Et ceci, nous devons le demander à la Vierge Marie. C'est elle qui doit nous aider à vivre de cela. Par nous-mêmes, c'est tellement difficile. Nous avons tellement peur de perdre notre autonomie. Nous avons tellement peur de perdre ce que nous sommes à nos propres yeux. Alors Marie nous fait comprendre que, avec un petit sourire maternel, que notre autonomie, hein, c'est pas grand-chose, à côté de l'amour qui nous lie à Jésus, à côté de cette unité qui se réalise en amour, avec celui qui est notre Dieu et notre frère. Le sponsabo in misericordia, c'est tout le mystère de l'espérance. Et c'est Marie qui doit s'offrir elle-même à la croix dans ses désirs les plus fonciers de mère. L'espérance réclame de nous l'offrande de tous les désirs que nous avons. Même le désir du sacerdoce, voyez. Parce que c'est le grand désir qu'on a. Eh bien, il y a une offrande de ce désir. Il y a une offrande pour le recevoir gratuitement. Comme un don qui nous est fait gratuitement. Nous ne le méritons pas. Et donc notre désir, qui peut être un désir qui vient de Dieu, doit être vécu dans la pauvreté, sans aucun droit. Dès que nous croyons avoir des droits sur le sacerdoce, parce que nous avons bien fait nos études, parce que nous sommes vertueux, et nous avons fait beaucoup d'efforts, à ce moment-là, on accapare un bien de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible, d'accaparer le sacerdoce. C'est ce qu'il y a de plus horrible, d'accaparer le sacerdoce. Et ceci, c'est lorsque nous ne vivons pas assez en pauvre. C'est-à-dire que la vertu d'espérance n'a pas été suffisamment purifiée dans son exercice divin du don de crainte. Offrir à Dieu tous les désirs de notre cœur, les désirs les plus fonciers de notre cœur. Puisqu'on s'approche de la Toussaint, le désir de la sainteté. Il faut l'offrir à Dieu, même ce désir de la sainteté. Puisque nous ne pouvons pas le garder divinement par nous-mêmes. Nous l'offrons. Dieu fera de nous ce qu'il veut. Ça nous libère complètement. Parce qu'autrement, on a toujours l'impression qu'il y a un idéal de vie qu'on n'a pas réussi. Et alors on pleure d'un côté. En disant, j'aurais pu faire ça. Et là, j'aurais été saint. Et c'est vrai, on dit ça. Vous verrez. Eh bien, il s'agit d'offrir tous ses désirs. Pour dire, oui, je suis un pauvre type. Je suis un pauvre, très pauvre. C'est à ce moment-là que commence la petitesse évangélique. Pas avant. La petitesse évangélique, c'est à ce moment-là. On est entièrement entre ses mains. Vous savez, la petite Vierge Marie à la croix. La petite Vierge Marie à la croix. Elle est plus petite que lorsqu'elle s'est offerte la première fois à Dieu. Elle est plus petite intérieurement. Femme pauvre, hein, celle qui n'a plus rien. Elle a tout offert.
Yeah.